Dans le contexte, c'est juste après le départ de David qui doit fuir Jérusalem, après que le roi David ait quitté la ville, après avoir été trahi par son ami Achitophel, après qu'il ait gravi le mont des Oliviers dans l'humiliation, Absalom se trouve pour un temps sur le trône maintenant. Le rebelle se trouve sur le trône. Il fallait maintenant gouverner. Il fallait décider. Ah, jusque-là, il avait été un politicien, comme on a l'habitude d'en voir, totalement démago, promettant tout à tous, critiquant les faits et paroles du roi en place, soignant son apparence et particulièrement sa chevelure, son look, son style, mais sans aucune consistance. Absalom, c'est un rebelle. Après avoir tué son frère, il a obtenu un retour en grâce à la cour, et au lieu de servir le roi, il le trahit. Et il se rebelle contre son autorité, il le pousse dehors. Et je vous propose de faire la lecture à présent, un long passage, mais le chapitre 18, verset 1 jusqu'au chapitre 19, le verset 8. David passa en revue le peuple qui était avec lui, et il établit sur eux des chefs de milliers et des chefs de centaines. Il plaça le tiers du peuple sous le commandement de Joab, le tiers sous celui d'Abishai, fils de Tseruja et frère de Joab, et le tiers sous celui d'Ittai, de Gath. Et le roi dit au peuple, « Moi aussi, je veux sortir avec vous. » Mais le peuple dit, « Tu ne sortiras point. » Car si nous prenons la fuite, ce n'est pas sur nous que l'attention se portera. Et quand la moitié d'entre nous succomberait, on n'y ferait pas attention. Mais toi, tu es comme 10 000 de nous. Et maintenant, il vaut mieux que de la ville, tu puisses venir à notre secours. Le roi leur répondit, « Je ferai ce qui vous paraît bon. » Et le roi se tint à côté de la porte, pendant que tout le peuple sortait par centaines et par milliers. Le roi donna cet ordre à Joab, à Abishai et à Ittai. « Pour l'amour de moi, doucement avec le jeune Absalom. » Et tout le peuple entendit l'ordre du roi à tous les chefs au sujet d'Absalom. Le peuple sortit dans les champs à la rencontre d'Israël et la bataille eut lieu dans la forêt d'Éphraïm. Là, le peuple d'Israël fut battu par les serviteurs de David et il eut en ce jour une grande défaite de 20 000 hommes. Le combat s'étendit sur toute la contrée et la forêt dévora plus de peuple ce jour-là que l'épée n'en dévora. Absalom se trouva en présence des gens de David. Il était monté sur un mulet, et le mulet pénétra sous les branches entrelacées d'un grand térébinthe, et la tête d'Absalom fut prise dans le térébinthe. Il demeura suspendu entre le ciel et la terre, et le mulet qui était sous lui passa outre. Un homme, ayant vu cela, vint dire à Joab, « Voici, j'ai vu Absalom suspendu à un térébinthe !» Et Joab dit à l'homme qui lui a porté cette nouvelle, « Tu l'as vu ? Mais pourquoi donc ne l'as-tu pas abattu sur place ? Je t'aurais donné 10 cycles d'argent et une ceinture. » Mais cet homme dit à Joab, « Quand je pèserai dans ma main 1 000 cycles d'argent, je ne mettrai pas la main sur le fils du roi, car nous avons entendu cet ordre que le roi t'a donné à toi, à Abishai et à Ittai. Prenez garde chacun au jeune Absalom. Et si j'avais attenté perfidement à sa vie, rien n'aurait été caché au roi et tu aurais été toi-même contre moi. » Joab dit, « Je ne m'arrêterai pas auprès de toi. » Et il prit en main 3 javelots et il les lança dans le cœur d'Absalom, encore plein de vie au milieu du térébinthe. 10 jeunes gens qui portaient les armes de Joab entourèrent Absalom, le frappèrent et le firent mourir. Joab fit sonner de la trompette et le peuple revint, cessant ainsi de poursuivre Israël parce que Joab l'en empêcha. Ils prirent Absalom, le jetèrent dans une grande fosse au milieu de la forêt et mirent sur lui un très grand monceau de pierres. Tout Israël s'enfuit, chacun dans sa tente. De son vivant, Absalom s'était fait ériger un monument dans la vallée du roi, car il disait « Je n'ai point de fils par qui le souvenir de mon nom puisse être conservé. » Et il donna son propre nom au monument, qu'on appelle encore aujourd'hui monument d'Absalom. Achimaatz, fils de Tsadok, dit « Laisse-moi courir et porter au roi la bonne nouvelle que l'Éternel lui a rendu justice en le délivrant de la main de ses ennemis. » Joab lui dit, « Oh, ce n'est pas à toi Ce n'est pas toi qui dois porter aujourd'hui les nouvelles. Tu les porteras un autre jour, mais non aujourd'hui, puisque le fils du roi est mort. » Et Joab dit à Cushi, « Va et annonce au roi ce que tu as vu. » Cushi se prosterna devant Joab et courut. Achimaatz, fils de Tsadok, dit encore à Joab, « Quoi qu'il arrive, laisse-moi courir après Cushi. » Et Joab dit, « Pourquoi veux-tu courir, mon fils ? Ce n'est pas un message qui te sera profitable. Quoi qu'il arrive, je veux courir, » reprit Achimaatz. Et Joab lui dit, « Cours. » Achimaatz courut par le chemin de la plaine et il devança Cushi. David était assis entre les deux portes. La sentinelle alla sur le toit de la porte vers la muraille. Elle leva les yeux et regarda, et voici, un homme courait tout seul. La sentinelle cria et avertit le roi. Le roi dit, « S'il est seul, il apporte des nouvelles. » Et cet homme arrivait toujours plus près. La sentinelle vit un autre homme qui courait. Elle cria au portier, « Voici un homme qui court tout seul. » Le roi dit, « Il apporte aussi des nouvelles. » La sentinelle dit, « La manière de courir du premier me paraît celle d'Achimaatz, fils de Tsadok. » Et le roi dit, « Oh, c'est un homme de bien, et il apporte de bonnes nouvelles. » Achimaatz cria, et il dit au roi, « Tout va bien. » Il se prosterna devant le roi, la face contre terre, et dit, « Béni soit l'Éternel, ton Dieu, qui a livré les hommes et qui levait la main contre le roi, mon Seigneur. » Le roi dit, « Le jeune Absalom est-il en bonne santé ?» Achimaatz répondit, « J'ai aperçu un grand tumulte au moment où Joab envoya le serviteur du roi et moi, ton serviteur, mais je ne sais pas ce que c'était. » Et le roi dit, « Mets-toi là, de côté. » Et Achimaatz se tint de côté. Aussitôt arriva Cushi. Il dit, « Que le roi, mon seigneur, apprenne la bonne nouvelle. Aujourd'hui, l'Éternel t'a rendu justice en te délivrant de la main de tous ceux qui s'élevaient contre toi. » Le roi dit à Cushi, « Le jeune homme, Absalom, est-il en bonne santé ?» Cushi répondit, « Qu'il soit comme ce jeune homme, les ennemis du roi, mon seigneur, et tous ceux qui s'élèvent contre toi pour te faire du mal. » Alors le roi, saisi d'émotion, monta dans la chambre au-dessus de la porte et pleura. Il disait en marchant, « Mon fils Absalom, mon fils Absalom, que ne suis-je mort à ta place, Absalom, mon fils, mon fils !» On vint dire à Joab, « Voici, le roi pleure et se lamente à cause d'Absalom. » Et la victoire ce jour-là fut changée en deuil pour tout le peuple, car en ce jour le peuple entendait dire, « Le roi est affligé à cause de son fils. » Ce même jour, le peuple rentra dans la ville à la dérobée, comme l'auraient fait des gens honteux d'avoir pris la fuite dans le combat. Le roi s'était couvert le visage et il criait à haute voix, « Mon fils Absalom, Absalom, mon fils, mon fils !» Joab entra dans la chambre où était le roi et dit, « Tu couvres aujourd'hui de confusion la face de tous tes serviteurs qui ont aujourd'hui sauvé ta vie, celle de tes fils et de tes filles, celle de tes femmes et de tes concubines. Tu aimes ceux qui te haïssent et tu hais ceux qui t'aiment, car tu montres aujourd'hui qu'il n'y a pour toi ni chef ni serviteur. Et je vois maintenant que si Absalom vivait et que nous soyons tous morts en ce jour, cela serait agréable à tes yeux. Lève-toi donc, sors et parle au cœur de tes serviteurs, car je jure par l'Éternel que si tu ne sors pas, il ne restera pas un homme avec toi cette nuit. Et ce sera pour toi pire que tous les malheurs qui te sont arrivés depuis ta jeunesse jusqu'à présent. » Alors le roi se leva et il s'assit à la porte. On fit dire à tout le peuple, « Voici, le roi est assis à la porte. » Et tout le peuple vint devant le roi. Cependant, Israël s'était enfui chacun dans sa tente. Waouh ! Quel passage ! Terrible, terrible, terrible parole de David qui hurle, « Absalom, mon fils, Absalom, que ne suis-je mort à ta place, Absalom, mon fils, mon fils !» Les gémissements de David reflètent la peine de nombreux croyants qui pleurent la mort d'un parent ou d'un ami non sauvé, pour qui ils ont peut-être prié pendant des années. Vous savez, il y a 8 jours, on a enterré fait les obsèques d'une sœur en Christ après une longue maladie. Oh, il y avait de la tristesse. Mais il y avait une consolation qui a régné dans nos cœurs. Une paix. Je dois dire même une certaine joie de savoir que ces souffrances étaient terminées et qu'elle était consolée. Toute larme essuyée par le Seigneur lui-même, qu'elle rencontrait son Sauveur, celui qu'elle avait aimé, qu'elle avait servi pendant des années. Mais quand il s'agit d'un non-croyant, quand on n'a pas cette assurance pour l'éternité, quand on est juste jeté dans le trouble par rapport à son devenir éternel, où est la consolation ? Comment trouver la consolation ? Et je pense que c'est une chose qui nous est peut-être déjà arrivée, et c'est en tout cas une chose qui nous arrivera. On va voir la mort de nos proches, de nos amis, et qui ne connaissent pas Dieu. Et la question ce matin, c'est : y a-t-il un baume pour nos cœurs en pareilles circonstances ? Quelle est l'attitude convenable selon la Bible ? Je voudrais tout d'abord mentionner le fait que nous ne pouvons jamais être absolument certains que la personne est vraiment morte sans le Seigneur. Et il y a tellement de témoignages qui rapportent que des gens, à la dernière minute, voilà, ils étaient à l'extrémité, et puis en quelques instants, ils se sont tournés vers le Seigneur. Heureusement, ils sont restés en vie pour nous en témoigner. Et ici, même Absalom, suspendu à cet arbre, pouvait encore se réconcilier avec Dieu. Et c'était la dernière occasion qui lui était donnée. Et donc, nul ne peut affirmer qu'il ne l'ait pas fait. Maintenant, supposons le pire et réfléchissons à quelle attitude convenable selon la Bible. Et je voudrais que l'on regarde tout d'abord un ordre déplacé. Vous comprenez ce dont je parlais ici. Parfois, on peut avoir une attitude qui est déplacée par rapport aux événements. Et l'ordre déplacé, c'est celui de David. Je voudrais remettre ça un peu dans le contexte. Achitophel, c'est le stratège de David. C'est un homme d'une grande sagesse. Et chaque fois qu'il a donné un ordre, c'était le bon. Il est passé à la révolte parce qu'il veut se venger. Et ses conseils, c'était la sagesse même. Et le premier conseil d'Achitophel pour Absalom, c'est de coucher à la vue de tout le peuple avec les 10 concubines de David qui sont restées à Jérusalem. De sorte que tout le peuple sache ce fils-là du roi, il s'est rendu odieux à David. Et il est déterminé à prendre le pouvoir et à asseoir son autorité. Et c'est ce qu'il a fait. Il l'a fait promptement même, portant une humiliation terrible à son père, et puis portant une humiliation à chacune de ses concubines. Dans l'Ancien Testament, on trouve encore d'autres événements comme celui-là en Genèse 49. Ce sont les prophéties les paroles de Jacob envers ses fils. Et il dit ceci pour Ruben. « Toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité, supérieur en puissance. » Et puis, chapitre 49, verset 4, il dit « Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant. » Et en Deutéronome 27, je lis Deutéronome 27, 20, il est dit « Maudit soit celui qui couche avec la femme de son père, car il soulève la couverture de son père, et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui monte sur la couche de son père. » Absalom s'est rendu odieux non seulement aux yeux de David, mais il s'est rendu aussi odieux aux yeux de Dieu lui-même. Et le deuxième conseil qu'Achitophel a donné à Absalom, c'est de lui confier 12 000 hommes pour qu'il poursuive immédiatement David alors qu'il était épuisé et abattu par la rébellion. Absalom consulte Hushaï, un autre conseiller, mais celui-ci restait fidèle à David. Et ce conseiller, Hushaï, lui suggère plutôt d'attendre et de préparer toute une armée nombreuse comme les sables des plages, et d'être lui-même à la tête de cette armée, et de venir et d'écraser David et tous ceux qui l'ont suivi. Et dans ce dernier conseil, Absalom lui-même porte le coup de grâce à David, son père. Et son orgueil est flatté. C'est moi qui vais être devant toute cette armée. Alors c'est le conseil qu'il retient. Et il poursuit son père. Dans le livre de l'Exode, chapitre 21, verset 15, il est dit « Celui qui frappera son père ou sa mère sera puni de mort. » Ça fait deux choses. Deux choses ici dans la loi qui condamnent à mort Absalom. Absalom, c'est le fils rebelle et qui ne cherchait qu'à frapper son père, alors que son père ne tendait qu'à vouloir lui faire grâce, le protéger, l'épargner. Matthew Henry, un commentateur biblique, dit « Cela pourrait être en quelque sorte une image de la méchanceté de l'homme face à la miséricorde de Dieu. » Et je trouve que c'est flagrant ici. Chaque fois, Absalom veut faire du tort, et à chaque fois, David est en train d'essayer d'apaiser la chose, essayer de prolonger ses jours pour lui faire encore grâce. De son côté, David a organisé son armée et se prépare au combat, mais ses chefs lui interdisent de combattre. Ils se mettent et ils le mettent à l'abri. Ils se souviennent, eux, de ce que Achitophel avait dit. Il avait dit « Laisse-moi poursuivre David, je vais le tuer lui seul. Si on tue David, c'est bon. L'unité nationale revient. » Et donc, eux, ils mettent à l'abri David. Et donc, David ne peut que... Il est dans cette ville de Mahanaïm, là, et puis il ne peut que voir ses troupes partir. Il les salue, il les bénit. Et puis, juste avant la bataille, il donne cet ordre incompréhensible, hein, au chapitre 18, le verset 5. « Pour l'amour de moi, doucement avec le jeune Absalom. » Pour l'amour de moi, doucement avec le jeune Absalom. Et chaque fois qu'il reparle au verset 12, au verset 29, au verset 32, à chaque fois, le jeune Absalom. Oh, David y considérait encore son fils comme un jeune rebelle qui pouvait être pardonné. Mais traiter gentiment le traître, le chef de la rébellion, c'est déplacé. C'est vraiment une attitude déplacée, c'est un ordre déplacé. Parce qu'on s'oppose à la loi qui réclame sa mort. On s'oppose même à la justice de Dieu. Et ce jeune, il a 30, 35, 40 ans peut-être, ce jeune Absalom, il provoque une guerre civile qui nous est rapportée ici dans les versets 6, 7 et 8. Et curieusement, c'est le parti de David qui prend le dessus dans la bataille. Mais ce jour-là, il y a 20 000 morts. 20 000 morts. Voilà ce que ça produit la rébellion. 20 000 morts, 20 000 foyers endeuillés, des veuves et des orphelins par milliers, des souffrances pour tout un peuple. Voilà l'homme rebelle. Voilà comment il offense son Dieu. Et dans notre cœur, il devrait y avoir cette pensée de se ranger fermement du côté de Dieu et de sa justice et de prendre garde à notre faiblesse humaine, celle que manifeste ici David, cette mollesse, si je peux dire. Oui, il y avait un ordre déplacé, mais il y avait un arbre bien placé. Dans la débâcle, il y a Absalom qui se trouve isolé dans la forêt et il est poursuivi par des hommes de David. Et voilà que sa tête se prend dans un arbre. Soit c'est une fourchette là, formée de deux branches qui l'attrape là, par le cou, soit cette magnifique chevelure s'est enchevêtrée dans des branchages et puis le voilà suspendu. Et, vous savez, les livres pour enfants, ils présentent toujours Absalom dans cette position, suspendu par ses cheveux dans un arbre. Naturellement, on penche plutôt pour cette deuxième solution parce que ça le fait tomber par ce qui faisait sa gloire, au fond. En tout cas, le mulet sur lequel il était monté a continué son chemin et l'a laissé dans l'arbre, entre ciel et terre. C'est un accident. C'est hallucinant, c'est un accident. C'est presque comique. J'ai envie de dire, ça n'arrive que dans les dessins animés, ce genre de choses. Ça n'arrive pas normalement, dans la vraie vie, ça n'arrive pas. Mais c'est arrivé. Il est pris par les cheveux dans un arbre. C'est Dieu lui-même qui est intervenu pour mettre fin à la folie de cet homme. L'homme qui poursuivait Absalom le trouve suspendu par les cheveux. Il se souvient de l'ordre que David a donné par amour pour moi, doucement avec le jeune Absalom. Et il avertit Joab, mais il ne porte pas la main contre lui. Et Joab, lui, il dit, écoute, je ne peux pas discuter de ça maintenant, il faut que je le tue. Et verset 14, il plante trois lance dans son cœur, désobéit à l'ordre déplacé du roi, parce qu'il sait qu'Absalom vivant, il n'y aura pas de repos, pas de paix pour le royaume. Absalom est jeté dans une fosse, sous un très grand monceau de pierre, et la loi de Moïse dit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Maudit est quiconque est pendu au bois. C'est aussi ce qui arrive à Aman, dans le livre d'Esther. Il est pendu au bois. C'est le jugement de Dieu sur les rebelles. Il est aussi enterré, Absalom, sous un très grand monceau de pierre et non dans son mausolée. Il s'était fabriqué un mausolée, un beau monument. Saül avait fait la même chose. Les deux n'ont pas été enterrés dans leur mausolée, mais sous un tas de pierres. Le monceau de pierre, ça indiquait souvent que celui qui était enterré était un criminel ou un ennemi. Regardez quelques versets dans Josué au chapitre 7, c'est l'histoire d'Acan. Vous connaissez Acan, au moment de la bataille de Jéricho, il a volé des choses qui étaient dévouées par interdit, c'est-à-dire qui appartenaient à l'Éternel. Il les a cachées sous sa tente et puis s'en est suivi une défaite, la défaite de Haï. Et au chapitre 7 et au verset 26, c'est son jugement. Il est dit qu'il est mis à mort, il a troublé Israël. Tout Israël le lapida, on les brûla, lui et c'est les siens, on les lapida. Et on éleva sur Acan un grand monceau de pierres qui subsiste encore aujourd'hui. Et puis un petit peu plus loin, dans le chapitre 8, c'est le roi d'Haï au verset 29. Il dit, il fit pendre à un bois le roi d'Haï et il laissa jusqu'au soir. Au coucher du soleil, Josué ordonna qu'on descende son cadavre du bois et on le jeta à l'entrée de la porte de la ville et l'on éleva sur lui un grand monceau de pierres qui subsiste encore aujourd'hui. Et au chapitre 10, au verset 26, cette fois-ci c'était encore une bataille, cette bataille à Gabaon. Et il y avait une coalition de cinq rois amoréens. Verset 26, après cela, Josué les frappa et les fit mourir. Il les pendit à cinq arbres et ils restèrent pendus aux arbres jusqu'au soir. Et vers le coucher du soleil, Josué ordonna qu'on les descende des arbres, et on les jeta dans la caverne où ils s'étaient cachés, et l'on mit à l'entrée de la caverne de grosses pierres qui y sont demeurées jusqu'à ce jour. Vous voyez ici, c'est la fin qui est réservée aux rebelles, à tous ceux qui s'élèvent contre la main de l'Éternel, qui s'opposent à sa volonté. Oh, bien entendu, tous les incroyants qui meurent ne sont pas des Absalom. Néanmoins, on est tous des pécheurs. On est des pécheurs par nature et par choix. Et nul d'entre nous ne mérite une quelconque grâce de la part de Dieu ou même l'occasion d'entendre l'Évangile. Vous avez compris ça? Notre déchéance, notre nature de pécheur, notre choix pour le mal fait que nous ne méritons aucune grâce de la part de Dieu, aucune occasion même d'entendre l'Évangile. Mais ce sont là des faveurs imméritées que Dieu nous donne malgré tout, de pouvoir entendre l'Évangile, de pouvoir nous repentir et de pouvoir connaître le pardon de nos fautes. Dieu ne nous doit pas l'Évangile. Dieu ne nous doit pas 80 ans de bonne santé, comme parfois on le croit. La seule chose que Dieu nous doive, le salaire du péché, c'est la mort. À cause de nos fautes, la seule chose que l'on mérite, et si on vient devant Dieu pour recevoir selon nos mérites, c'est la mort que nous méritons. Maintenant, une autre pensée. Il y a là un enthousiasme déplacé chez Achimaatz. Achimaatz, c'est un jeune homme qui est du parti de David. Et il veut à tout prix apporter la bonne nouvelle à David. Achimaatz, c'est un jeune lévite. Il est fils du sacrificateur Tsadok. Et avec Jonathan, le fils du sacrificateur Abiathar, ils avaient été messagers pour annoncer à David qu'Absalom avait suivi le conseil d'Hushaï. C'était des messagers de bonnes nouvelles. Vous savez, ici, dans la manière de procéder, le choix du messager était très important. Le choix du messager était révélateur du contenu du message. D'ailleurs, dans notre passage, au verset 27, vous avez remarqué, quand la sentinelle dit au roi David, la manière de courir du premier me paraît être celle d'Achimaatz, fils de Tsadok. Et le roi dit, « Oh, c'est un homme de bien, et il apporte de bonnes nouvelles. Je sais maintenant que c'est une bonne nouvelle qui vient, parce que c'est Achimaatz qui m'est envoyé. » Bien sûr, Joab, il a conscience de ce qui se passe dans le cœur de David à ce moment-là. Et Joab, il avertit que ce ne sera pas une bonne nouvelle pour David. Et c'est jamais une bonne nouvelle pour un père de perdre son fils, quel que soit le fils. Et c'est pour ça que l'enthousiasme d'Achimaatz est déplacé. Il aurait dû y avoir de la retenue chez lui à ce moment-là. Bien sûr, pour Israël, la mort d'Absalom, ça sonne la fin de la guerre civile. Mais pour David, c'est sa chair. C'est son fils. Et on ne peut pas échapper à la tristesse profonde et réelle que provoque la mort. Et il y a une retenue à avoir. Dans l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul dit, Romains chapitre 9, versets 1 à 3, voilà ce qu'il dit. « Je dis la vérité en Christ. Je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites. Et Paul, il dit, j'ai une tristesse continuelle. Il ne peut pas consoler son cœur de savoir qu'il y a de ses proches, de sa famille, de son peuple qui meurt loin du Seigneur. Et c'est pourquoi Joab, il préfère Cushi comme messager. Cushi, certainement son nom, il vient de son origine. Cushite, c'était un habitant de Cush, un Éthiopien. Et on sait que les Éthiopiens sont d'excellents coureurs. Et c'est pour ça qu'il l'envoie. C'est un étranger. Ça veut dire, il apporte une nouvelle, mais il n'y a pas d'enthousiasme. Finalement, c'est Achimatz qui part tout de même et qui devance Cushi. Il a dû prendre un raccourci. Et au verset 28 du passage, Achimatz cria et dit au roi, « Tout va bien !» et se prosterna devant le roi, la face contre terre, et dit, « Béni soit l'Éternel ton Dieu qui a délivré l'homme, les hommes qui levaient la main contre le roi, mon Seigneur. » Et quand il fait son rapport, David, il est juste préoccupé par Absalom. Il demande rien d'autre. Verset 29, le roi dit, le jeune Absalom est-il en bonne santé? C'est terrible. Et ça montre la détresse du roi à ce moment-là. Il est complètement brisé par la crainte qui est dans son âme, dans son cœur, que Dieu ait fini par frapper son fils. Il est préoccupé juste par son fils. Il n'est même pas capable d'entendre autre chose. Il ne pose aucune question sur les troupes, aucune question sur le nombre de blessés, aucune question sur Joab, Abishai ou Ittai. Non. Le jeune Absalom est-il en bonne santé? Et là, Achimatz, tellement enthousiaste, ne peut pas dire les choses au roi. Alors il tourne autour du pot et il répond d'une manière vague. Il dit, oh là là, il y avait de l'agitation dans le coin là-bas, j'ai pas bien tout compris. Et à ce moment-là, Cushi arrive. Et Cushi lui fit le même rapport. C'est une bonne nouvelle, tu as été délivré de tes ennemis. Et David repose la même question, verset 32. Le jeune homme, Absalom, est-il en bonne santé? Et Cushi lui répond, Franco, qu'il soit comme ce jeune homme, les ennemis du roi, mort, mon Seigneur, et tous ceux qui s'élèvent contre toi pour faire le mal. Il y a de la retenue à avoir. La mort, ça reste un drame. La mort demeure douloureuse pour tous. Et elle est une tragédie pour les incroyants. Une tragédie. Quelle que soit la vie qu'a pu être celle de cet incroyant, quelles que soient les circonstances de sa mort, il y a une retenue à avoir. Il y a de la compassion à manifester envers ceux qui sont dans le deuil. Et puis, il y a un désespoir déplacé. Verset 33, le roi, saisi d'émotion, monta dans la chambre au-dessus de la porte et pleura. Il disait en marchant, « mon fils, Absalom, que ne suis-je mort à ta place, Absalom, mon fils, mon fils, mon fils. » David, il pleure, Absalom, il est désespéré. Et probablement que David voit sa défaillance dans l'éducation qu'il a donnée à ses fils. Il savait qu'Absalom n'était pas prêt pour rencontrer son Dieu. Il aurait voulu qu'il ait encore du temps pour se repentir. Il sait que tout cela arrive à cause de ses propres fautes. Ses fautes à lui, hein, comme lui avait annoncé le prophète Nathan, et il n'arrive pas à faire la part des choses entre l'intérêt, son intérêt personnel et l'intérêt du royaume. Que ne suis-je mort à ta place ? Mais ici, c'est l'œuvre de Dieu. Le jugement, c'est celui de Dieu. C'est clairement Dieu qui a attrapé Absalom. Et toutes les paroles qui sont rapportées à David, c'est verset 19, l'Éternel lui a rendu justice. L'Éternel lui a rendu justice. Au verset 28, béni soit l'Éternel ton Dieu qui a délivré les hommes qui levaient la main contre toi, le roi, mon Seigneur. Verset 31, aujourd'hui l'Éternel t'a rendu justice. Et les gémissements de David, ils sont déplacés à cause de tout le mal dont Absalom s'était rendu responsable. Et aussi parce qu'il fait tort aux vivants. Il fait tort aux vivants ici. C'est comme si Dieu n'est pas juste. Ces hommes, ils sont obligés de rentrer honteux. Honteux d'être du parti de David, du parti de la justice, parti de la vérité. Et donc Joab, il est dans un grand jour. Chapitre 19 et verset 5, il reprend, mais vertement ou sèchement, David, « Tu couvres aujourd'hui de confusion la face de tous tes serviteurs qui ont aujourd'hui sauvé ta vie, celle de tes fils et de tes filles, celle de tes femmes et de tes concubines. Tu aimes ceux qui te haïssent et tu hais ceux qui t'aiment. Car tu montres aujourd'hui qu'il n'y a pour toi ni chef, ni serviteur. Et je vois maintenant que si Absalom vivait et que nous soyons tous morts en ce jour, cela serait agréable à tes yeux. Lève-toi donc, sors et parle au cœur de tes serviteurs. Car je jure, et je pense que là, il se dit, si lui, il ne parle pas, moi je vais parler et je vais tourner tout ce peuple contre David. Et c'est moi qui vais rentrer et régner à sa place. » Et il dit, « Je jure par l'Éternel que si tu ne sors pas, il ne restera pas un homme avec toi cette nuit. Et ce sera pour toi pire que tous les malheurs qui te sont arrivés depuis ta jeunesse jusqu'à présent. » Ces hommes, ils ont donné leur vie pour David. Et ils savent, David, il sait au fond. Il a raison. David sait, oui, c'est juste ce qui est arrivé, mais son cœur est brisé par la douleur, par le deuil. Et donc, ça montre la grandeur de David, il accepte la réprimande de Joab, et puis il rectifie le tir, et il corrige ses erreurs. Et il va féliciter ses troupes. David avait dit, « Que ne suis-je mort à ta place ? » Que ne suis-je mort à ta place ? Cette parole, Dieu l'a fait. Si quelqu'un meurt dans ses péchés, ce n'est pas la faute de Dieu. Cela a coûté un prix énorme à Dieu pour offrir aux humains un moyen d'être sauvés. David, il ne peut mourir à la place de son fils, pas plus que Paul ne peut mourir à la place de ses frères juifs, ou que nous pouvons mourir à la place de nos bien-aimés. Tout homme est pécheur et mérite la mort, pour ses propres fautes. Aucun homme ne peut prendre la place d'un autre pécheur pour payer à sa place. Et c'est pourquoi Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ dans le monde, lui le seul juste. Il a supporté la malédiction de Dieu à notre place. Lui aussi a été pendu au bois, sur une croix. Lui aussi a été suspendu entre ciel et terre. Son côté à lui aussi a été percé par la lance. Lui aussi, il a été enseveli et on a roulé une grosse pierre devant son sépulcre. Et c'était pour nos fautes. C'était pour que nous n'ayons pas à mourir séparés de Dieu. C'était pour qu'on soit consolés, délivré de la colère à venir. Dieu ne nous doit rien. sinon la mort. Nous supportons assez mal la sainteté de Dieu et sa colère contre le péché qui réclame la mort. Alors nous aussi, nous disons souvent, doucement, avec le jeune homme. Mais c'est Dieu qui tient le souffle de nos vies entre ses mains. Sommes-nous plus justes que Dieu pour savoir ce qui est nécessaire de faire? Sommes-nous plus miséricordieux que Dieu, plus gracieux que lui? Sommes-nous plus aimants que Dieu? La croix de Christ répond à ces questions. Non, Dieu est gracieux. Dieu aime le pécheur, il veut le sauver. Et donc, gardons ça en tête. Gardons aussi en tête que la mort est douloureuse et grave, et qu'elle est une tragédie, et qu'il est nécessaire d'avoir de la retenue face à ceux qui sont endeuillés. Et puis, Dieu a donné son Fils pour que nous ne tombions pas dans le désespoir. Ne faisons pas tort aux vivants. Offrons-leur l'Évangile. Rappelons la beauté de notre salut. Rappelons la victoire que Christ nous a acquise par sa mort. Jésus a été suspendu entre ciel et terre pour que nous ne le soyons pas. Alors, si vous n'êtes pas prêt pour l'éternité, préparez-vous. Saisissez aujourd'hui l'offre de Christ en croix pour vous. Et puis, dites-le à votre entourage. Dites-le, j'ai fait la paix avec mon Dieu. J'ai fait la paix par Jésus-Christ avec mon Créateur. Si je meurs aujourd'hui, dites-le à vos proches. Je sais que je suis en paix. Je sais que mes péchés sont pardonnés parce que Christ m'a aimé. Et il s'est donné pour moi. Et puis, continuez à vivre et à annoncer l'Évangile autour de vous. Ne faites pas du tort aux vivants. Offrez-leur cet évangile. Et certainement, vous allez rester avec des questionnements, des choses auxquelles je ne suis pas capable de répondre. En tout cas, pas aujourd'hui. Mais tous vos questionnements, placez-les devant Dieu. Et réfugiez-vous dans sa justice et dans sa bonté, dans son amour pour vous. Amen.